Poète au présent.
¿Cómo disolver una casa? La estructura de canela simple, sólida en la memoria.
Bonjour. Alors nous sommes au Festival Voix Vive à 7. Florent Robin au micro pour Divergence FM et aussi pour Radio Pays d'Hérault. Et aujourd'hui, nous recevons donc Casimiro de Brito et Jean-Pierre Lemaire. Et les textes seront lus par une partie des textes seront lus par Mathieu Pendrina. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Et nous avons aussi avec nous Tito Livio Santos Mota, qui est le président de l'Association culturelle de langue portugaise de Montpellier.
Casamadis.
Casamadis, puisque nous allons commencer d'ailleurs par parler du Portugal avec Casimiro de Brito. C'est vrai que le Portugal est assez peu connu encore en France comme pays de poètes. On connaît bien sûr Fernando Pessoa, mais il n'y a pas que Fernando Pessoa au Portugal. Il y a aussi énormément de poètes qui méritent d'être connus. Je pense entre autres à Jorge de Sena, à Camões, pour prendre les plus anciens, Madagaret, etc. Donc cette poésie portugaise dont Casimiro de Brito est le représentant aujourd'hui, nous allons un petit peu en parler. À signaler aussi une chose qui me semble très importante, c'est que le Portugal est à ma connaissance le seul pays dont la fête nationale célèbre un poète. C'est la fête de Camões, c'est le 10 juin. Est-ce que je me trompe ?
Exactement.
Parlez devant le micro.
10 juin, c'est la fête de Camões.
Alors,
et dans d'autres pays, nous avons l'habitude de, dans le 10 juin, envoyer un poète pour chaque cité du monde. Et c'est pourquoi j'ai été la dernière année exactement au nord de la Roumanie, en Constanța, qui c'est la terre d'un grand poète latin, Ovidiu. Et j'ai choisi Constanța pour faire le 10 juin.
Alors on disait une terre de poètes, c'est vrai que ça commence un petit peu à être traduit depuis une dizaine d'années. Il y a plusieurs éditions qui font des efforts pour traduire les poètes. Je pense entre autres aux éditions Les Scampettes, qui depuis quelques années ont fait des efforts pour faire de belles traductions. Il y a eu aussi chez Gallimard une édition en poésie Gallimard, si je ne me trompe pas, une anthologie sur les poètes portugais contemporains.
Et par Michel Chandaigne, qui
par
est
Michel
aussi
Chandaigne,
un grand traducteur et un grand éditeur de poésie.
Il y a une grande anthologie de la poésie méditerranée qui va paraître chez Gallimard dans 15 jours. Et il y aura 1000 pages, plus que 1000 pages, et il y aura tous les poètes de tous ces pays et aussi du Portugal. Et moi, je serai un des quatre poètes portugais qui sont inclus.
Quels seront les trois autres ?
Oui, oui. Et les trois autres sont António Ramos Rosa, qui c'est notre prix Nobel presque toujours. C'est Nuno Judice, qui a été attaché culturel à Paris. Et c'est un autre poète qui est député européen, que c'est Vasco Graça Moura.
Bien sûr.
Alors, c'est ça.
Alors, justement, on revient à la génération 61, donc poésie 61.
De la génération 61, moi, je suis le seul.
Oui.
Nous avons été cinq, mais maintenant, deux sont morts, et moi, voilà. Je ne suis pas très jeune, mais pas très vieux, mais de toute façon, je suis justement un représentant. Pas représentant, parce que je me représente à moi-même. Mais de toute façon, nous avons changé la poésie portugaise.
Oui, voilà, vous avez ouvert la voie, c'est ça ce que je voulais dire, parce que les autres poètes que vous avez cités sont des gens qui viennent dans la lignée après de votre mouvement. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis que ça vient justement de cette inertie positive que vous avez créé. Et il faut savoir que quand la génération précédente, c'était celle d'Orfeu, qui était quand même très très lourde de signification, et disons le défi était très lourd à soulever. Et moi je suis particulièrement admiratif du fait que vous avez à une époque, il faut savoir, c'était en pleine dictature, donc il n'y avait absolument aucun aide, même si il y avait beaucoup d'éditeurs qui avaient de très bonnes volontés. Vous avez lancé des revues en Algarve, qui est, Algarve, directeur, qui est exactement
directeur de deux revues au Algarve, exactement aux années à la fin des années 50 et au commencement des années. Pessoa n'a pas été très important pour nous pour une raison très concrète. Parce que Pessoa, c'est j'ai l'habitude de dire qu'en Portugal il y a trois poètes. Certainement au Portugal il y a un million de poètes, mais j'ai envie de dire qu'il y a le poète, c'est Camões.
Camões.
C'est un des meilleurs poètes du monde de tout le temps. C'est le maître Fernando Pessoa. Et c'est le musicien, que c'est un poète qui a vécu toute la vie isolé en Chine, à Macau, que c'est Camilo Pessoa. J'ai dit que Pessoa n'a été très important pour nous en tant que génération, parce que Pessoa a commencé à être connu après.
Oui, c'est vrai.
C'est dit que Pessoa en vie a publié seulement deux ou trois petits recueils, et même et en anglais. Seulement mensages, hein, en portugais, les autres en anglais. Et c'est après que nous avons découvert qu'il y avait une arche avec plus de 40 000 pages et avec des œuvres magnifiques. Et alors, d'un moment à l'autre, il a commencé à être le poète portugais le plus connu dans le monde. Mais les autres portugais, nous pensons qu'il est un poète exceptionnel, mais nous parlons de lui comme étant notre ambassadeur. C'est-à-dire que nous n'aimons pas, nous parlons de Pessoa avec une vénération substantive. Mais de toute façon, nous disons, mais attention, Portugal n'est pas seulement Pessoa.
Bien
Pessoa
sûr.
A été une espèce de fruit de l'arbre poétique portugais. Et qui a des racines, que sont des racines, par exemple, de 12 ou 14 ou 15 langues qui ont entré au pays et peuple de tous les coins du monde. Et ça a changé la langue, a changé une langue normale dans une langue très sensuelle. Et c'est pourquoi nous avons poète pendant toute l'histoire.
Et ça revient régulièrement. Chaque siècle, au moins une génération de très, très grands poètes.
Vient d'être publiée au Portugal une grande anthologie de les poètes plus signifiants depuis le XIIe siècle. Et nous sommes dans cette anthologie, je pense que 300 ou 400 poètes. Et il y a des gens qui ont commencé au 3e, 1200 quelque chose, au commencement de notre langue. C'était notre langue, parce que dans ces temps-là, nous parlions le galego-portugais.
Le galego-portugais, oui.
Et alors, c'est à partir de Camões, comme c'était la même chose en Italie, à partir de Dante, il y a un grand écrivain qui change la langue. Et qui, après ça, la langue est une autre. Et alors, c'est pourquoi il n'y a pas seulement une langue dans la poésie portugaise. Mais il y a seulement deux ou trois. Ce n'est pas un pays comme l'Italie où nous pouvons, sans difficulté, je connais 23 langues italiennes d'Italie. C'était un pays composé par cité, cité-État. Et alors, chaque cité-État avait sa propre langue. Ce n'est pas le cas de Portugal. Portugal, c'est autre chose. Portugal, c'est un pays avec deux influences. Une influence qui sont des gens du Nord, qui c'est une influence religieuse et comme ça, qui venait de France, avec influence de cette région ici, de la Languedoc, et comme ça. Et c'est l'autre région, que c'est le Sud, qui a été très influencée pour pas seulement la poésie arabe, parce que les Arabes ont vécu là-bas pendant des siècles.
Cinq siècles, hein, si je ne me trompe pas.
C'était un change. Nous faisions la conquête des pays du Nord d'Afrique, et alors ils faisaient la conquête du pays de la région de Portugal-Espagne. Et c'était comme ça pendant des siècles. Et ça a enrichi d'une façon fabuleuse notre poésie. Parce qu'il y a une certaine musique dans la poésie arabe que nous avons emportée, mais pas seulement la poésie arabe. Et c'est ça la raison de la grande richesse de la poésie portugaise. Et maintenant, c'est pas facile, c'est pas difficile de... Par exemple, moi, je suis un poète, oui, je ne sais pas s'il y a un numéro pour ça, mais je suis traduit en 27 langues. Et partout, c'est possible de trouver des éditeurs parce que la langue a quelque chose. C'est une espèce de musique. Et alors, c'est la langue idéale pour faire la poésie. J'ai l'habitude de dire qu'un poème, a d'un parent, comme tout le monde. Et le père, c'est le poète, et la mère, c'est la langue.
On parlait tout à l'heure de Fernando Pessoa. C'est vrai que quand il y a eu la traduction pour la première fois du livre de l'intranquillité en France, ça doit être dans les années 86 ou 87, si ma mémoire est exacte. C'est vrai que ça a créé une dynamique pour les éditeurs et pour les traducteurs, ouais, de faire découvrir cette poésie pour les Français que le monde ne connaissait pas du tout. C'est vrai que quand on parle de Camões, pour les Portugais, ça parle tout de suite. La Lusiade, ouais, tout le monde connaît. C'est vrai qu'en France, si je dis Camões, la Lusiade, c'est quoi? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs comme ça. Je parlais tout à l'heure de Georges de Sena, qui me semble aussi un poète extrêmement, ouais, important, qui a été l'un des premiers d'ailleurs à parler de Fernando Pessoa un petit peu avant tout le monde.
Oui, c'est un des premiers, oui.
C'est l'un des premiers, si je ne me trompe pas.
Et moi, je voulais revenir un peu sur votre travail d'éditeur de revue de poésie. Parce que je sais, parce que j'ai un petit peu vécu cette époque. C'était dans un pays où il n'y avait absolument pas de politique culturelle, ni quoi que ce soit, mais il y avait des difficultés culturelles, au contraire. Et surtout dans l'Algarve, que le monde connaît maintenant grâce au tourisme, mais qui était une région, je ne dis pas arriérée du tout, c'était pas ça, mais une région rurale et périphérique du Portugal. Et j'aimerais bien un petit peu que vous me parliez de cette aventure-là.
Non, le problème, c'est ça, c'est que le tourisme en Algarve, et maintenant nous aurons 1 million de personnes là-bas. Moi, j'avais des maisons là-bas et je suis d'Algarve, mais je ne fréquente l'Algarve. Je ferai un festival de poésie en septembre en Algarve, mais c'est parce qu'en septembre. Alors, le problème, c'est un autre. C'est que il y avait déjà au Algarve une tradition poétique très forte. Et, par exemple, il y a des grands poètes arabes qui ont vécu, parce que c'est le moment de le dire, quand les gens du nord du Portugal ont fait la guerre pour faire la conquête, dans le sud du Portugal, nous avions une culture absolument magnifique, actualisée. Nous avons une anthologie, avec 156 poètes arabes qui ont vécu. Quand je parle Algarve, ce n'est pas Algarve, c'est ce que nous appelons l'Al-Andalus. C'est une région qui fait le sud du Portugal et le sud d'Espagne. Et l'autre vertente, c'est ici, à Poitiers, où aussi il y avait un lieu de passage entre les deux cultures. Et alors, nous avions une culture absolument supérieure au sud du Portugal quand les autres ont venu avec ces armes, parce que la culture des armes n'a rien à voir avec la culture de la poésie et d'autres choses. Et c'est pour ça que, par exemple, maintenant, dans les 15 ou 20 meilleurs poètes portugais, 5 ou 6 sont nés au Algarve. Et ce n'est pas une coïncidence. Et alors, c'était toujours comme ça. Et l'autre raison, je l'ai dit d'une façon un peu profonde, c'est que, étant une côte, une longue côte, le sud du Portugal, tout le monde a été là. Les Grecs, les Phéniciens, les Berbères, tout le monde. J'ai étudié cette histoire et j'ai trouvé 14 peuples qui ont été là. Avec une petite différence, c'est que quand un peuple fait l'invasion, généralement, fait aussi la destruction. Mais pas là, parce que c'était beau. Et alors, ils pensaient, nous devons partir, mais nous reviendrons. Et alors, c'est pourquoi toute la langue qui est parlée au sud du Portugal, c'est plus ouverte que la langue. Je ne suis pas contre le nord, parce que maintenant, il n'y a pas ces différences. Il y a un peu, mais pas comme ça. Le monde s'est éteint. Mais dans ces temps-là, c'était comme ça. Sur Camões, le problème, ce n'est pas de Camões, ce n'est pas des Portugais, parce qu'il n'y a pas aucun poète dans le monde, dans ce temps, qui se peut comparer à Camões. Pourquoi ? Je ne dis pas ça parce que je suis portugais. Non, ce n'est pas ça. Il y a Milton, il y a les autres, les Anglais, mais il n'y a pas aucune comparaison. Il y a parce que Camões a fait des espèces de poésie. A fait une poésie épique, les Iedas, et a fait une poésie lyrique. Alors, pour moi, mais pas seulement pour moi, il n'y a pas de comparaison entre Camões et les autres, même Petrarca. Pourquoi ? Parce que Camões a vécu tout ça. Et si nous sommes capables de lire les Lusíadas comme nous devons les lire, il y a toute la science, toutes les découvertes scientifiques de ce temps-là sont dans les Lusíadas. Toutes les expériences, parce qu'il a vécu au Japon et en Chine et parcouru le monde, et comme ça, c'était un peu comme Cervantes. J'ai l'habitude de dire que Camões a été un grand poète parce qu'il a perdu un œil dans une bataille. Et de la même façon, je dis que Cervantes, que c'est l'autre monstre, a été un grand écrivain parce qu'il a perdu un bras dans une bataille. Et alors, il a été obligé à être dans 20-30 ans à écrire, sinon on serait mourrait dans la guerre et les livres c'est pas.
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans les Lusíadas, c'est que c'est une épopée, mais en même temps c'est une épopée où le héros c'est tout le peuple portugais.
Non, ça c'est pas important. Ça c'est pas parce que le problème de Camões, c'est Camões comme pessoa. Les deux. C'est curieux que les trois grands poètes portugais sont les trois, ce que nous appelons en portugais, estrangeirados. C'était Camões, que c'était un homme du monde. C'était pas. Quand je parle de Camões, je ne parle d'un portugais. Je parle de quelqu'un qui a écrit en portugais. Mais il était un citoyen du monde, parce qu'il connaissait tout le monde. Tout le monde possible, il le connaissait. Il a été là, dans la guerre, comme ça. Pessoa, c'est la même chose. Pessoa, c'était le monde, mais intérieur. Ce n'était pas un monde extérieur, que Pessoa a vécu, mais c'était un monde intérieur que nous avions, d'une certaine façon, mais c'était absolument impossible de savoir que, par exemple, il avait 40 000 pages. Et il y a encore maintenant 4600 pages à déchiffrer. Mon ex-femme travaille dans un groupe qui est en train de faire un grand effort parce que ce sont les pages qu'il a écrites quand il était absolument saoul, avec l'alcool ou avec autre situation de médium, parce qu'il était aussi médium. Et alors, il y a encore des pages qui ne sont pas déchiffrées. Ce sont des 45 000 pages qu'il a écrites. Et tout ça a été publié après sa mort. C'est un phénomène, même parce que chacun des 14 hétéronymes ont des calligraphies différentes, des vies différentes. Et tout ça, il n'y a pas. Tout est bien, il n'y a une seule chose à corriger. C'était vraiment un monstre de la poésie. Mais pour nous, c'est notre ambassadeur, parce qu'il y a d'autres poètes au Portugal d'une grande importance. Et je peux dire, d'un ami de moi, avec une certaine. Parce qu'il vient de mourir, qu'il a gagné le prix Nobel, mais d'une certaine façon, le prix Nobel devrait être pour un poète, pas pour un écrivain, pas pour un romancier. Je suis aussi romancier, mais nous avons au Portugal trois ou quatre poètes qui sont plus importants du point de vue de la. construction du langage et de la façon de voir le monde. Plus important que Saramago. Mais de toute façon, Saramago, c'était un grand ami de moi. Mais je dis toujours avec.
Et un grand écrivain, quand même.
On va peut-être écouter.
Mais juste une question, parce que vous avez parlé de Strangelade. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est pas qu'on est. Je ne crois pas que c'est parce que les Portugais ont besoin d'aller ailleurs, apprendre ce qui se passe ailleurs. C'est que. Mais on a. Quand on est portugais, je crois qu'on le sent, on a besoin de sortir de chez nous pour pouvoir peut-être être nous-mêmes ou développer quelque chose qui est en nous. Est-ce que vous, parce que vous-même, vous avez vécu à l'étranger.
Ouais, le problème, c'est que il y a deux espèces de langues ou de littérature, si vous voulez. Je ne dirai pas les noms parce que ça ne serait pas gentil, mais il y a des espèces de littérature, sont les littératures qui pensent qui ont une importance, littérature et langue, qui ont une importance exceptionnelle. Et alors, ils n'acceptent pas les autres. Ce n'est pas le cas du portugais. Et c'est pourquoi c'est possible de trouver des écrivains d'une qualité absolument exceptionnel en Angola, à Mozambique, au Brésil. Et pourquoi? Parce que, ça c'est la raison, il y a des langues, je ne dis pas quelles sont les langues, qu'il faut écrire cette langue si nous vivons dans un pays différent, mais nous avons écrit la langue d'une façon officielle, très précise, très, comme ça. Pas le portugais. Le portugais, nous acceptons. Et c'est pourquoi nous avons au moins deux fois les mots que les autres ont. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a un exemple d'un oiseau au Brésil qui s'appelle papagaio. En portugais, en français, c'est papagaio. C'est perroquet. Okay. Il y a perroquet. Le perroquet, en portugais, a deux mots. Nous avons deux mots pour le perroquet du Portugal. Mais nous avons dans notre dictionnaire 176 mots pour perroquet. Parce qu'il y a 176 différentes qualités de perroquet. Où? Au Brésil, à Angola, à Moçambique. Nous avons été, de toute façon, nous sommes le portugais parlé par 300 millions de personnes. C'est la cinquième langue du monde.
Et ça, on l'oublie souvent. On va peut-être demander à Mathieu s'il veut bien nous faire une lecture de vos textes.
Ah, je dois lire quelque chose. Mais oui, j'aurai un plaisir, mais j'aime toujours improviser. J'aime toujours improviser. J'improvise toujours parce que je n'aime pas lire la même chose. Et il y a toujours un livre quelque part.
Et pendant que vous cherchez un petit peu les textes que vous allez lire.
Non, je, nous avons travaillé ensemble.
D'accord,
nous
parfait.
Nous avons travaillé les deux. C'est un livre qui s'appelle Intensité, ce livre-là. Ce livre-là est composé par 70 poèmes. Ces 70 poèmes ont été l'objet d'une exposition de gravure avec 70 pièces. Dans chaque gravure, j'écris un poème. Et 60, la presse totalité sont vendues. Moi, j'ai deux et l'artiste a autre deux. Et ça a commencé comme ça. Et beaucoup de mots de mes livres, qui sont 50, 49, sont presque toujours comme ça. Maintenant, il y aura une grande exposition au Porto avec 400 mètres carrés de mon prochain livre qui va être, qui est en train d'être travaillé par une grande peintre portugaise. Bon, je commence par lire au hasard. O belo caos inquieto do mundo em volta, todo concentrado nas mãos que navegam nos meus ombros, em tuas nádegas, ou veias, em veias e mais nada.
Le beau chaos inquiet du monde à la ronde. Tout concentré dans les mains qui naviguent sur mes épaules, sur tes fesses. Ou des veines dans des veines et rien de plus.
Já que não posso mudar o mundo, deixa-me sacudir a areia das tuas sandálias.
Puisque je ne peux changer le monde, laisse-moi secouer le sable de tes sandales.
Agora escrevo. Já estou cansado. Melhor seria continuar a olhar para as pessoas na rua ou para o mar, ver quem vive e só depois cantar.
Maintenant j'écris. Je suis déjà fatigué. Mieux vaudrait continuer à regarder les gens dans la rue ou regarder la mer, voir qui vit. Et seulement après, chanter.
Nunca mais aprendo a depurar a vida. Pensei há pouco, enquanto bebia no copo de barro um pouco de água. Eu que podia bebê-la na concha das tuas mãos.
Jamais plus je n'apprendrai à purifier la vie, pensais-je il y a peu, pendant que je buvais à la coupe d'argile un peu d'eau, moi qui pouvais la boire dans la coquille de tes mains.
Há quantos anos me sento a ver o mar, amor sem falhas.
Il y a combien d'années que je m'assieds pour voir la mer, amour sans faille.
A verdade suprema é quando o pescador pesca, ou quando ouço a harpa no canavial. A verdade suprema, os frescos sorrisos recuperados em Pompeia. A sombra das nuvens no chão que passa, ou quando me sinto a morrer e me deito no colo escuro.
La vérité suprême est quand le pêcheur pêche, ou quand j'entends la harpe de la roselière. La vérité suprême, les frais sourires retrouvés à Pompéi. L'ombre des nuages sur le sol qui passe, ou quand je me sens mourir et me couche sur le sein sombre.
De canto em canto, vou caindo no charco do silêncio.
De chant en chant, je tombe dans l'étang du silence.
Partiste, julgas que partiste, não levaste o manto que me cobre os cabelos em desordem, esta folhagem de palavras quase silenciosas.
Tu es parti, tu penses que tu es parti. Tu n'as pas emporté le châle qui couvre mes cheveux, en désordre ce feuillage de mots presque silencieux.
Merci.
Merci à vous. C'était donc des poèmes de Casimiro de Brito, lus par l'auteur et par Mathieu Pinchina. Je n'ai pas écorché votre nom, ça va. Je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Lemaire, bonjour. Donc vous êtes poète français, Vous connaissiez un tout petit peu la poésie portugaise ou c'est une découverte pour vous aujourd'hui ?
C'est pas une découverte complète. Je connaissais Pessoa, bien sûr, et j'aime aussi beaucoup les poèmes d'Engenho de Andrade,
oui, bien sûr,
que j'ai lu dans la traduction de Michel Chandaigne.
On en parlait justement.
À la différence, donc.
Bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de poètes portugais à découvrir. Oui, c'est un immense poète. Ah oui, Tito voulait dire que...
L'année prochaine, on va consacrer l'année à Eugène d'Andrade.
À Casa Amadis, l'association Casa Amadis, l'association culturelle de langue portugaise. Donc l'année prochaine sera consacrée à Eugênio d'Andrade. Voilà, donc ça tombait bien. Voilà, donc on va peut-être faire connaissance. Vous êtes français, poète français. Vous êtes né dans le nord de la France,
si je me trompe. Alors, je suis né en Haute-Savoie, mais j'ai passé ma jeunesse dans le nord de la France, effectivement.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc, vous êtes arrivé à la poésie, comment ? Quel est un petit peu votre parcours ?
Alors, pendant des années, j'ai voulu être musicien, en fait. Mais je n'ai pas été assez persévérant. J'ai fait des études de lettres et au bout de mes études, je voulais encore faire de la musique, mais je n'avais que les mots pour ça. Et finalement, ce qui pouvait être un handicap au départ a été une chance parce que les mots, contrairement aux notes de musique, parlent des choses, ont un poids de réalité. Alors donc, j'ai essayé de faire de la musique avec les choses, avec les êtres. Alors, le rythme est plus lourd, bien sûr, mais en même temps, pour moi, c'était nouveau. Et donc, j'ai essayé à tâtons, pas à pas, mot à mot, de faire cette musique avec la réalité.
Quand vous parlez de musique et de mots, ça me rappelle une anecdote avec Paul Verlaine, un musicien avait été voir et pour mettre en musique un de ses poèmes, et il avait répondu « Pourquoi mettre de la musique sur ma musique ?»
Oui, c'est vrai que la musique de la poésie est une musique silencieuse en quelque sorte. C'est une musique qui est sous les mots. C'est pas la musique des sons, même si elle existe aussi, c'est plutôt la musique des rapports entre les êtres. Ce sont ces rapports que découvre la poésie et qui sont finalement la musique du monde, la musique des choses.
D'après ce que je crois savoir, ce qui était un révélateur chez vous pour accéder à la poésie, c'est la découverte de Claudel.
Oui.
Qui a été importante, je pense entre autres, je crois c'est au Soulier de Satin.
Oui, c'est vrai, j'ai été enthousiasmé par Claudel et en même temps j'ai dû me détacher de lui pour trouver ma voix.
C'est une
voix forcément
onde, toi,
plus modeste, puisque je n'ai pas la carrure de Claudel. Et là, ce sont les poètes étrangers qui m'ont aidé. En particulier les poètes de l'Est, Pasternak,
oui.
Vladimir Holan, qui est un grand poète tchèque, Pilinski, qui est un poète hongrois. Des poètes grecs aussi, comme Yanis Ritsos. Voilà, ce sont eux qui m'ont appris à réconcilier ce que nous avons du mal à mettre ensemble dans la poésie française, c'est-à-dire le spirituel et le quotidien.
Alors, non seulement vous êtes poète, mais vous êtes aussi professeur.
Oui.
Professeur de lettres.
Oui.
Est-ce que vous enseignez la poésie ? Comment est-ce qu'on peut enseigner la poésie aujourd'hui ?
Alors, j'enseigne la poésie, mais je n'enseigne pas à faire de la poésie. C'est-à-dire, j'essaie d'apprendre à lire la poésie des autres. C'est autre chose.
C'est déjà un gros travail.
Oui, c'est un travail.
On va peut-être écouter, pour commencer, on va reprendre cette discussion, quelques textes, si vous voulez bien.
Oui. Alors, ce sont des poèmes écrits autour de figures humaines. Des figures qui d'habitude reste un peu pour nous dans les marges, et que la poésie, elle, peut un peu amener à la lumière. Alors, une première figure, celle de la ménagère. Quand elle a fini de cirer les meubles, d'essuyer les vases, le dos des vieux livres, elle s'assied, la tête vide. Les grains de lumière ont partout remplacé les grains de poussière. Mais qui verra la différence ? Le soleil seul la félicite.
Une autre figure ?
Alors, une figure aussi d'un monde qui reste un peu en marge d'une autre, celui des maisons de retraite. La fin du monde a déjà commencé. pour les pensionnaires entourés de roses. Les jours passent plus vite, deviennent un seul jour aux couleurs mêlées, coupées de bandes noires. La vie oublie de leur répondre, parfois s'arrête en face d'eux. Voici qu'on leur présente un nouveau-né, dont la petite main, si douce à baiser, dépasse à peine de la manche. Il n'a pas encore appris à sourire, et ses yeux gris-bleus posent les questions les plus profondes.
Une autre figure, et puis après on reprendra la conversation.
Alors. Peut-être une figure méditerranéenne, enfin des figures méditerranéennes, puisque c'est une évocation de la ville de Naples. On habitait à ce moment-là juste au-dessus d'un marché et nous avons fini par comprendre que à l'aube donc, les personnes qui donnaient leur place aux vendeurs sur le marché étaient des personnes qui sans doute appartenaient à la mafia. Et bon, ça a donné un poème. Marché de Naples. Les petits vendeurs installent leur tréteau à l'emplacement que des hommes en gris leur ont indiqué. Ils sortent des cartons, ceintures, vêtements, cravates trop vives, et les cris s'emparent de l'air matinal. Des femmes en boubou arrivent déjà, retournent un à un les habits d'enfants, d'une main royale. Assis au coin des rues, des adolescents désœuvrés attendent, se passent un sac qui disparaît vite. Ce soir, l'un d'eux sera peut-être mort. Et le sauveur pense à chacun, avec les seins entourés de photos, posant un regard étrangement doux dans le vacarme des motocyclettes sur tous ceux qui essaient de vivre.
Bravo. On parlait tout à l'heure que vous aviez découvert aussi la poésie par la poésie étrangère. Je suppose que c'est une poésie que vous avez découverte par la traduction.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Parce que, Casimiro, vous êtes aussi traducteur, si je ne me trompe pas. Et vous traduisez, vous, c'est des haïkus.
Bon, je ne suis pas traducteur. Je ne suis pas. Ah. Je traduis pour moi. Mais la seule chose que je fais pour les autres, c'est la traduction du japonais. Parce que en 58 exactement, il fallait sortir du pays parce qu'il y avait une guerre coloniale en 5 francs et je n'ai pas la guerre. Et alors j'ai parti pour Londres. C'était nécessaire de gagner un prix d'anglais parce qu'il y avait, un concours international pour tout le monde. Et chaque pays avait deux vainqueurs. Et moi, j'ai gagné le prix du meilleur portugais qui parlait anglais. Et ils m'ont offert une course de 4 mois dans une université anglaise. Et comme je suis un homme heureux, d'une façon générale, j'étais très, très triste parce que je devais partir. Et pour autre raison, j'avais publié un livre en 57, qui s'appelait Poema de solidão imperfeita, et le principal critique portugais a dit: maintenant nous avons un successeur de Pessoa, de Álvaro de Campos. Pour moi, c'était une expérience merveilleuse, mais seulement pendant un mois. Après un mois, je devenais absolument triste parce que je désirais être le pire poète du monde, mais pas égal à un autre. Quand j'ai arrivé à Londres, j'ai été placé dans le bureau d'un professeur de littérature, de poésie japonaise. Toute la maison, toute la chambre était pleine de poésie japonaise. Alors j'ai vu avec mon anglais que la traduction du japonais au anglais, ça me semblait très bien. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne parlais encore japonais. Mais il y avait des gens aussi du Japon, deux personnes, une un garçon et une fille. Certainement, j'ai choisi la fille. Oui. Et j'ai demandé à la fille pour voir avec moi si la traduction était correcte. Et elle m'a dit non, mais non, c'est autre chose. Ce n'est pas la poésie japonaise. La poésie japonaise, c'est une chose tout à fait différente. La poésie japonaise, c'est comme pour les Chinois, la peinture, c'est l'unique trace. La poésie japonaise, c'est une trace. Il y a quelque chose qui sort. Ce n'est pas une chose traitée, travaillée, comme étaient les poèmes traduits en anglais. J'ai demandé à la petite, à la japonaise, pour faire une traduction avec moi. Elle a accepté. Et depuis là, j'ai été absolument passionné pour la poésie japonaise. Et le prochain livre, c'était en 58 ou 59, et c'était déjà un livre avec influence japonaise. Et après ça, j'ai commencé à publier régulièrement au Japon, et je suis même un des deux poètes de l'Europe qui ont été reçus par l'impératrice du Japon à Tokyo il y a deux années, parce que j'ai gagné un prix au Japon. Et alors, c'est la seule poésie que j'ai traduite. C'est la poésie japonaise. Et seulement une poésie japonaise que le monde ne connaît pas. C'était, le monde connaît la poésie japonaise classique. Basho, Issa, tout, sont des dizaines de poètes importants qui sont publiés chez vous, en France, avec trois ou quatre traductions merveilleuses. Mounier, il y a autre de Jacoté, il y a... Traduction merveilleuse. Mais moi, j'ai pensé que ce serait mieux de traduire la poésie moderne. Qu'est-ce qu'il y a dans la poésie moderne japonaise? La poésie, je parle des haïkus. Est-ce qu'il est possible de changer l'haïku, qui a toute une expression ancienne? Et alors, j'ai découvert que oui, qu'ils ont, d'une certaine façon, acquis le surréalisme et toutes les découvertes occidentales, le haïku, a été capable de capter. J'ai publié une grande anthologie au Brésil, et alors, j'ai publié même, je l'ai ici, le livre qui a gagné le prix japonais, c'était ça. Qui est en quatre langues, portugais, japonais, pas portugais, japonais, anglais et français, et que c'était le prix du Japon, de meilleur livre étranger publié. Et alors, depuis là, chaque année, je suis au Japon. En septembre, j'irai au Japon. C'était ma troisième patrie, parce que ma deuxième, c'est l'Italie. Et je traduis le japonais.
Et moi, j'aimerais aborder maintenant un autre problème, c'est-à-dire au niveau de la traduction. Découvrir sa poésie traduite dans une langue autre que la sienne. Je sais que vous vous êtes traduit dans beaucoup de langues. 27.
27 langues.
Et je ne sais pas si vous êtes traduit encore en étranger, dans d'autres langues.
Il y a eu un livre en italien et un livre en hongrois.
En hongrois.
Auquel je ne comprends rien.
Ça, c'est bon. Ça, quand j'ai une traduction d'une des 14 langues que plus ou moins je parle, je dis toujours que c'est une mauvaise traduction. Quand il y a une traduction, maintenant, vient de publier une traduction en Albanie et autre en Lettonie, je dis, oh, doit être merveilleuse parce que je ne connais pas la langue.
Je peux raconter une anecdote. Nous avons un ami qui est un grand poète français, Laurent Gaspard, qui est donc d'origine hongroise, mais qui évidemment maîtrise très bien le français. Et je lui ai demandé de traduire au moins le titre livre qui avait été traduit en hongrois. Et il m'a dit, ah, ça c'est un titre très très curieux qui ne te ressemble pas du tout. Alors j'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, ça veut dire les entrailles coupées en morceaux. Alors je me suis dit, mais quand est-ce que j'ai écrit ça? Et j'ai fini par comprendre que c'était la traduction de « le cœur circoncis ». Mais...
Non, c'est un problème, oui. Torga, le grand poète portugais Miguel Torga disait toujours « Je suis absolument fasciné avec les traductions dans les langues que je ne connais pas ». C'était comme moi.
Mais les traductions, c'est aussi extrêmement important pour le public d'un pays, pour découvrir une poésie. Je disais tout à l'heure qu'on a commencé vraiment à découvrir la poésie portugaise à partir des années 86 avec les traductions de Pessoa, qui a servi de moteur et de locomotive. C'était. Pour que des éditeurs se disent il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Et il y a eu beaucoup d'éditeurs, certains éditeurs qui ont eu beaucoup de courage. Je pense pour la Portugal, c'est les éditions de l'Escampette, qui ont eu le courage non seulement de publier des traductions, mais des traductions d'excellente qualité.
Oui.
Si on connaît les poésies de Georges de Sena, c'est mon chouchou, je ne le cache pas, de Georges de Sena en français, c'est grâce aux éditions de l'Escampette qui ont demandé à des universitaires de travailler sur les textes.
Oui, c'est ça, c'est ça. Les Anglais ont commencé avant les Français, parce qu'ils ont publié une anthologie de Pessoa au moins 10 années avant, mais sans continuité. Alors, en France, non. En France, Pessoa a été accepté, je dirais presque, comme un poète français. Même s'il a été surtout, c'était un poète qui a commencé à écrire en anglais. Mais la poésie, ce n'est pas seulement faire la poésie, c'est aussi la réception. Et la réception de Pessoa en France a été absolument excellente.
Je dois dire une chose, c'est qu'en tant que Portugais... Vivant en France, il y a quelque chose que je trouve merveilleux qui est complètement inconnu au Portugal, c'est qu'il y a un vrai militantisme de Français en France pour faire connaître non seulement évidemment la littérature portugaise, mais toute la littérature de langue portugaise. Ouais. Mais il faut, c'est un vrai combat. Ils se battent, ils n'ont pas une seconde à eux. Ce sont des passionnés extraordinaires.
Je sais.
Et c'est quelque chose, les Portugais, il faut comprendre que les Portugais ont toujours tendance à se considérer un peu plus bas qu'ils ne le sont. Pas complètement en bas, mais toujours un degré au moins en dessous. Et donc, il est normal qu'ils ignorent qu'ils puissent avoir des gens aussi passionnés pour eux. Mais il faut absolument le dire, répéter qu'il y a des gens en France qui font un travail vraiment passionné.
De toute façon, il y a des Français, je ne dirais pas des noms, mais il y a des Français qui pensent un peu différent, qui pensent que la poésie n'est pas seulement, comme j'ai dit, qu'il y a une mère, que c'est la langue, qu'il y a un père, que c'est le poète. C'est aussi la vie du pays. Si un pays a une vie tumultueuse, comme c'était l'exemple de la France, par exemple, aux années 20, 30, 40, 50, il y a une production de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands poètes aujourd'hui en France, certainement qu'il y a, mais ce n'est pas la même chose de faire la poésie avec la vie en péril, comme Apollinaire et comme les autres, c'est pas la même chose qu'avoir une c'est égal au Portugal, certainement. Maintenant, au Portugal, faire la poésie, c'est facile parce que nous avons toute la liberté. Mais dans mon temps, c'était pas comme ça. J'étais en prison parce que j'ai écrit trois vers qui ont été interprétés comme une critique à Salazar. Alors, tu dois aller en prison parce que tu ne dis pas la vérité, mais c'est Salazar qui est ici. Mais non, ce n'est pas Salazar, ce sont des mots, ce sont 23 mots. Et j'ai été trois jours en prison pour ça. C'était nécessaire de faire tout un travail dans le journalisme surtout. Il y avait des journaux que nous devons lire avec des glaces spéciales et la poésie toujours. Et c'est pourquoi un nombre important de journalistes étaient poètes importants. Et après, ils ont abandonné le journalisme. Parce que c'était absolument difficile. Et quand un poète, un écrivain, c'est pas un poète, c'est un écrivain, a difficulté dans son expression, il cherche... Le poète, c'est comme l'eau. L'eau trouve toujours un chemin. Il y a toujours un chemin pour l'eau. À travers la pierre, dans le sous-sol, je ne sais pas comment. Le poète et l'eau sont frères et sœurs. Ils trouvent toujours une façon de faire passer. Et c'est pourquoi, une chose intéressante, les poèmes qui étaient lus au Portugal, par exemple, d'un poète qui s'appelait Egito Gonçalves, qui a écrit un poète qui s'appelait Notícias do Bloqueio. Notícias do Bloqueio.
Des nouvelles du blocus.
Alors, c'est ça sur le fascisme portugais. Il s'était dit dans les écoles de Russie et de Pologne comme un poète, un poème de résistance. Parce que la situation, c'était pareil, c'était la même, avec un nom différent. Le fascisme au Portugal, le communisme en Pologne, c'est la même chose. Ça, c'est la force de la poésie.
Et au Portugal, la nouvelle génération de poètes, est-ce qu'il y a une nouvelle génération de poètes qui commence à surgir ou pas ?
Oui, il y a toujours, mais maintenant, la vie, c'est facile. Pour maintenant, il y a le problème d'Internet aussi, qu'il y a des revues importantes dans Internet. Mais le poète portugais, actuellement, il y a deux, ou trois ou quatre importants, mais ils n'ont pas... écrire pour ces poètes-là n'est pas risquer la vie. Mmh. Comme dans mon cas, que j'ai été en prison, j'étais dans l'exil. Et c'était comme ça. Et pas maintenant. Nous pouvons dire que mon cousin, c'est le président de la République. Que mon cousin, c'est un crétin. Et il est un peu crétin comme ça. nous ne sommes pas d'accord sur rien. Mais un poète peut dire ça, le président de la République portugaise, poétiquement, certainement, c'est un crétin. Mais dans mon temps, si j'avais écrit, j'écris trois vers très subtils et qu'il voit là Salazar, prison. C'est pas la même chose. Et c'est pareil partout. C'est égal ici, c'est pareil partout. Je voudrais savoir votre opinion sur ça, si vous pensez que c'est comme ça. La liberté donne au poète une certaine force.
Oui, nous n'avons pas à lutter pour cette liberté, c'est sûr, hein, c'est une chance. Peut-être qu'en même temps, du coup, notre poésie perd en force, parce qu'elle n'a pas à lutter justement pour conquérir son propre espace.
De toute façon, je ne veux pas parler seulement des choses belles de la poésie portugaise, parce que ça ne serait pas la vérité. Le problème, c'est que quand nous n'avons pas la liberté, il y a beaucoup de poètes qui écrivent sur le peuple. Et la plupart des poètes sont de la merde, sont pas bien. Et alors, quand la liberté vient, ces poètes... il y a seulement deux ou trois qui se sauvent. Les grands, Carlos Oliveira, José Gomes Ferreira, trois. Il y avait, je pense, que ce que nous appelons le néo-réalisme portugais, que c'était une espèce de... c'était une espèce comme la poésie sociale dans les pays. Et il y avait 300 ou 400 poètes. Et maintenant, de ces 300 ou 400 poètes, dans l'anthologie possible maintenant, il y a seulement 3 ou 4. Les autres parlaient le peuple, avec la bouche pleine, le peuple. C'est pas la poésie, ça.
Tito, tu voulais dire quelque chose sur les néo-réalistes ? Parce que je crois que tu prépares quelque chose.
Mais
sur
c'est
les...
toi aussi. Hein. On va faire un... On va faire, mais on veut ouvrir justement, parce que le néo-réalisme, moi je partage votre point de vue sur le néo-réalisme. Ouais. Là c'est sur quelqu'un qui me tient à cœur, parce que j'ai vécu à Alhandra, et donc c'est sur Pereira Gomes. On va faire, à partant d'une exposition très très belle qui a été faite sur Soeiro Pereira Gomes, qui englobe aussi toute la lutte contre Salazar, bien entendu.
Oui, mais de toute
donc,
façon, en tant que
donc voilà, c'est transversal. Mais ce qu'on veut faire, en Madame fait, Fonseca, c'est créer un débat après sur justement les racines du néo-réalisme dans Steinbeck et le Brésil. Et en passant par le Portugal, et j'aimerais beaucoup que ça se finisse vers l'Italie. Et là, je crois que là, ça prend une ampleur plus intéressante que ce que, justement, le grand péché pour moi du néo-réalisme au Portugal, c'est de rester confiné à ce petit truc-là où le peuple est bien gentil, qu'est-ce que les autres sont méchants. Déjà, ce n'est pas vrai pour la plupart des écrivains néo-réalistes qui ont quand même une dimension autre que ça. Déjà, c'est injuste envers eux. Et puis, c'est petit. Voilà, comme
de toute façon, je pense que partout c'est le même. Il y a toujours, quand nous avons des problèmes de liberté, chacun qui écrit pour la liberté, qui risque sa vie, est considéré un grand poète, un grand écrivain. Mais il y a un moment où vient la critique avec une grande attention. Et alors, il y a seulement 3 ou 4 de ces poètes qui sont les poètes. Les autres ont fait son travail. C'était important aussi. Quand je pense à moi, je pense qu'il y avait 4 ou 5 poètes que maintenant je ne considère pas comme poète, mais qui m'ont aidé à voir les choses et à voir la réalité. Et maintenant, ce n'était pas comme poète, comme homme. Et moi, je n'oublierai jamais ces poètes qui m'ont aidé à voir la vie et le peuple, les difficultés des autres, et la compassion et tout ça. Mais en tant que poète, ils ont disparu absolument. Parce que la poésie, pour moi, c'est pas pour les autres, chacun a sa méthode. Pour moi, la poésie a été toujours une espèce d'orchestre symphonique. Et j'ai écrit toujours dans différents styles, travaillant 16 heures par jour, étudiant les racines de la poésie orientale, la poésie l'Arabie, la poésie arabe, toutes les poésies du monde et ça, et alors produisant de différentes voix. C'est un peu l'imitation de Pessoa, mais dans autre ton. Et c'est un travail. Et pour les autres, les autres poètes que je viens de parler, c'était une émotion. Et la poésie, c'est pas une émotion, c'est autre chose. C'est aussi une émotion.
Voilà, on fait signe que l'heure est écoulée, ça passe très vite une heure en parlant de poésie. Donc c'était pour le festival Voix Vive, Poète au présent, donc nous sommes à 7. Florent Robin pour Divergence FM et Radio Pays des Héros, nous avons reçu Casimiro de Brito pour le Portugal, Jean-Pierre Lemaire pour la France, et je remercie aussi Mathieu Pinchina pour nous avoir lu quelques textes, et merci au public de nous avoir écoutés. Merci à tous, à bientôt.
Poète au présent.
Cómo disolver una casa. La estructura de canela simple, sólida en la memoria.